3 à 246. Chronique de la Maison de la Mémoire.
Alors bonjour, aujourd'hui la chronique de la Maison de la Mémoire pourrait s'intituler « La guerre d'Emmanuel » ou la chronique d'un fait divers à Coufouleux en 1912. Parce qu'on est tombé tout à fait par hasard en regardant des journaux locaux, en l'occurrence Le Progrès, sur un tout petit article dans la rubrique des chroniques régionales, le 23 novembre 1912, où l'on dit qu'on a tiré deux coups de feu sur la fenêtre de la chambre de la maison des instituteurs Donna à Coufouleux, et une enquête est ouverte. La semaine d'après, donc le 30 novembre, un nouvel article dans les chroniques régionales qui est consacré à cette affaire, avec un titre un peu surprenant. Le titre, c'est « Un symptôme ». Donc jusque-là, on avait déjà les victimes, donc les instituteurs de Coufouleux. Et là apparaît un second protagoniste, c'est le curé du village, qui est directement décrit comme un personnage terriblement manipulateur, un fanatique, avec au-dessus de lui l'évêque de Rodez, Monseigneur Ligonès, sur lequel on reviendra après. Et en même temps, le troisième protagoniste, qui est la communauté des villageois, qui joue à chaque fois un rôle important. Dans le même article, donc, qui fait référence à l'affaire des coups de feu de la semaine d'avant, il parle aussi d'une autre affaire qui a opposé le même curé, mais dans un autre village, à l'instituteur de ce village-là, avec là aussi la participation active des villageois. Donc direct, on sent vraiment qu'il y a une tension et on voit apparaître l'opposition entre deux camps, donc celui des instituteurs et celui du curé. Et pour autant, il y a pas mal de semaines de silence suite à ça. On n'entend plus parler de l'affaire. Puis elle ressurgit et tout s'emballe à partir de février 1913, au moment sans doute du procès qui a suivi l'enquête pour les coups de feu. Et le 15 février, là pour le coup, Le Progrès consacre la une à cette affaire-là. Il lui consacre en tout une page et demie. Un moment où les journaux faisaient 4 pages et la dernière est consacrée aux annonces légales, etc. Donc en fait, plus de la moitié du journal est consacrée à l'affaire. Et alors là, avec un gros titre, l'attentat de Coufouleux. Donc l'article reprend les faits dans le détail. Il présente le mobile, les origines de l'affaire, l'enquête qui a suivi, un rebondissement un peu glauque, et ensuite aussi tous les échos qu'elle a eus. Donc il rappelle les faits, le 11 novembre 1912, il y a deux coups de fusil qui ont été tirés avec des balles à sanglier contre la fenêtre des instituteurs, avec clairement la volonté de tuer, parce que d'après la disposition des lieux, du lit, etc., par chance ils n'étaient pas encore couchés, mais sinon l'issue aurait pu être tragique. Le mobile, alors c'est l'exclusion d'élèves de l'école qui avaient refusé d'acheter et d'étudier un certain livre d'histoire qui avait été écrit par Guillot et Mann, et qui se trouvait être interdit par l'évêque de Rodez et les évêques de France en général. Les origines de l'affaire, alors ça remonte à quelques années auparavant, où le jeune instituteur qui vient s'installer arrive juste après le curé, un mois après le curé, à peu près, qui est un curé assez zélé, et qui apprend que l'instituteur utilise des manuels que le clergé a interdits. Donc il commence une campagne vraiment de propagande avec ses prêches auprès de la population. Pour autant, l'instituteur, donc, il subit cette propagande, mais il ne change rien à ses méthodes parce qu'il en a informé la hiérarchie et qu'il lui dit de continuer ainsi. Du coup, les élèves qui obéissent à leurs parents, ils refusent d'étudier et ils quittent l'école pour la plupart, jusqu'à ce qu'a priori, il n'y en ait quasiment plus. Les seuls qui restent, du coup, le curé refuse de leur faire le catéchisme, de leur donner tous les sacrements, ainsi qu'à leurs parents. Donc au final, on se retrouve donc avec plus d'élèves. Puis à la rentrée de 1912, certains voulaient passer le certificat d'études, donc ils reviennent à l'école. Mais l'instituteur, qui ne lâche rien, continue à enseigner avec ses manuels. Donc du coup, là, tout repart. Et d'autant plus que donc la veille du jour des coups de feu, donc le 10 novembre, il y a un prélat, un missionnaire, qui se balade dans le pays et qui fait un prêche dans lequel, a priori, il aurait dit qu'il fallait surtout pas que les élèves étudient l'histoire au travers de ce livre-là. Ensuite, le même article, donc du 15 février, il relate l'enquête, et notamment, on va dire un peu l'immobilisme du tribunal d'instance de Sainte-Afrique, qui n'avait pas l'air très enthousiaste à mener l'enquête, alors que le journaliste dit qu'il a très clairement identifié les suspects, les témoins, etc. Enfin, l'enquête était très facile à faire. Donc à ce moment-là, il indique en même temps qu'il se fomentait à la même période, on va dire, une action contre l'institutrice de Pau, qui elle aussi utilisait un des manuels interdits, mais qui a priori n'a pas eu lieu. Ensuite, l'article relate le rebondissement de l'affaire. Donc un mois et demi après, en fait, les coups de feu, le 24 décembre, et là ça devient un peu glauque, le couple d'instituteurs reçoit une lettre. Alors la lettre, elle commence par les mots « Alléluia, Noël, Alléluia ». Mais là où c'est assez surprenant et un peu tragique, c'est qu'elle est signée du prénom de Josette. Or, le couple d'instituteurs avait eu un bébé qu'ils avaient appelé Josette et qui était morte en bas âge. Et en fait, dans cette lettre, leur fille leur demande de ne plus utiliser les manuels parce que c'est dangereux, etc. Donc du coup, cette lettre, elle relance vraiment l'affaire avec une enquête aussi qui aura lieu pour l'affaire. Et cette affaire, elle est relayée au travers de différents moyens, donc dans la presse, mais aussi au travers de l'amicale des instituteurs qui vient à Couffleux, qui fait son enquête, qui parle de cette affaire dans leur bulletin de janvier 1913. Donc tout commence à s'emballer. Avec après aussi l'enquête, on verra qu'elle va être exportée jusqu'à Paris, etc. Parce que, en fait, cette tentative de crime, elle s'inscrit dans un contexte un peu particulier qui est la refondation du système scolaire qui a été promu depuis Jules Ferry dans les années 1880, donc qui voulait l'école obligatoire, gratuite et laïque. Elle en illustre une des dernières phases qu'on appelle souvent la guerre des manuels, parce qu'après avoir laïcisé les locaux, les intervenants, donc les professeurs, il s'agissait de laïciser les contenus et donc les manuels scolaires. Mais ça ne s'est pas fait assez facilement non plus, même si l'Aveyron représente dans ce contexte-là un cas un peu à part à cause de l'attachement aux traditions, une part assez importante de la religion dans la vie des gens. Malgré tout, on la retrouve, cette guerre des manuels, on la retrouve un peu partout en France, même si à Couffleux, la nature des faits et leur violence fait que c'est assez exceptionnel et extraordinaire, au sens que ça sort de l'ordinaire. Mais c'est aussi dû au fait des caractères des représentants des deux camps. Parce que donc d'un côté, on a le clergé catholique aveyronnais, avec à sa tête l'évêque de Rodez et de Vabre, qui est monseigneur de Ligonnès, qui lui est arrivé en 1906. Avant lui, il y avait eu un évêque qui était plutôt partisan de la modération et du dialogue, alors que lui, c'est plutôt un homme de caractère, très ferme et moins conciliant que son prédécesseur. Lui, il n'hésite pas à s'appuyer sur le réseau des écoles libres, qui a su se maintenir et même se développer, mais aussi sur les curés de chaque paroisse, qui relaient les positions de l'évêque de Rodez, mais au-delà de tous l'épiscopat français, auprès des populations. Et c'est le cas pour les manuels scolaires. En effet, en 1909, donc 3 ans avant les coups de feu, les évêques de France avaient élaboré une liste de manuels interdits, parce qu'ils les jugeaient trop modernes, trop neutres, et donc du coup pas assez catholiques. Et la même semaine que les coups de feu, dans la revue religieuse du diocèse de Rodez, on trouve un tout petit article dans lequel, en fait, ils expliquent aux curés comment ils peuvent présenter aux populations la dangerosité des manuels et comment faire en sorte que les gens ne les utilisent pas, voire même s'en débarrasser, mais sans risquer de conséquences judiciaires pour les curés. Et pour cela, en fait, ils s'appuient sur un procès qui a eu lieu à Grenoble. Mais en fait, il suffit qu'ils gardent le ton du conseil. Et ça peut passer, ils risquent rien judiciairement parlant. Donc il y a certains manuels qui sont donc interdits, dans un peu toutes les matières. Et c'est parce que, donc, comme on disait, ils essayent de laïciser les contenus. Parce qu'il y a il y a vraiment, donc, ça fait rupture avec ce qui se passait jusque-là dans la littérature scolaire. Et ça, on le remarque notamment dans les préfaces des livres, dans lesquels les auteurs, ils expliquent clairement leurs intentions, soit religieuses, soit idéologiques. Et Guillaume et Donna, dans leur livre d'histoire, donc celui qui était utilisé à Couffleux, très clairement, ils disent que dorénavant, ils cherchent à s'intéresser à l'évolution du peuple français et pas seulement à certaines personnalités un peu totémiques ou à des grands événements militaires, dans le but de former des hommes de progrès et donc de bons républicains. Alors que jusque-là, c'était plus de bons paroissiens qu'on cherchait à former, peut-être. Donc face au camp du clergé, il y a le camp des représentants du gouvernement de la Troisième République, donc des élus régionaux qui sont les radicaux, ici, qui sont pas forcément de farouches anticléricaux, plutôt modérés même, mais qui n'hésite pas à porter l'affaire jusqu'au Parlement, notamment au travers du député de Sainte-Afrique, Étienne Fournol, et dans les divers ministères. Avec eux aussi, on trouve tout le réseau des instituteurs laïques, parce que donc avant de laïciser les manuels, on a laïcisé les instituteurs, et on a mis en place les écoles normales, où sont formés les instituteurs, et qui du coup, ça crée des réseaux, ils gardent les liens, et il y a une espèce d'esprit de corps qui s'est formé. Et du coup, ils forment des amicales. L'amicale des instituteurs à Véronée, elle est créée en 1904. Celle pour la circonscription de Sainte-Afrique est créée en 1907. Et de suite, ils soutiennent forcément leurs collègues, donc l'instituteur laïque. C'est le cas aussi, donc dans ce camp-là, on trouve aussi toutes les associations civiques, comme celle de la libre pensée ou des droits de l'homme, qui sont créées au début du XXe siècle pour l'Aveyron, et généralement animées par des républicains, donc des gens plutôt de gauche. Et toutes ces associations, dès le début, soutiennent l'instituteur de Coufouleux. Donc on a les deux camps en présence, et chacun sait qu'il peut s'appuyer sur un réseau de presse, et en fait, il s'en prive vraiment pas. Et on le voit là, en l'occurrence, avec Le Progrès, qui, comme son sous-titre le dit, soutient vraiment l'instituteur laïque. Alors qu'après, il y a d'autres journaux avéronnais qui vont... notamment la Croix qui soutient l'autre camp, donc le clergé. Malgré tout, donc, comme je le disais, l'affaire de Coufouleux, elle s'inscrit dans un moment où on trouve d'autres affaires, mais elle est quand même exceptionnelle, parce que cette guerre des manuels, en général, elle se traduisait souvent par des cérémonies que le clergé organisait, et où en fait, pour manifester son mécontentement, il décernait des médailles aux élèves qui avaient déserté l'école laïque. Donc ça restait assez léger quand même. Ça n'allait pas jusqu'à des extrémités comme là on l'a rencontré. Malgré tout, donc, cette affaire elle illustre un bref moment et un des derniers de la transition donc, du système scolaire ancien vers le début de celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut vraiment le replacer dans son contexte, qui est déjà vieux de plus de 30 ans à ce moment-là. Et c'est ce que fait un historien, Jacques Jarriot, en 2006 dans un article de la revue du Rouergue qui s'intitule « Marianne, le crucifix et le tableau noir en Aveyron ». Où, entre autres, il en arrive un petit moment à faire allusion à cette affaire-là, et qui vraiment explique tous ces 30-40 ans vraiment importants pour le système scolaire avéronais, mais au-delà, bien national. Quoi qu'il en soit, en fait, si on lit les journaux qu'on conserve à la Maison de la Mémoire, on comprend vraiment que cette affaire, elle a marqué les gens et qu'elle est restée dans les mémoires pendant très longtemps, des décennies même. Parce qu'en fait, c'est un monsieur d'une... 70-75 ans, qui nous en a parlé cet été et qui nous expliquait que c'est sa grand-mère qui lui avait parlé de cette affaire. Mais il ne savait pas trop à quelle période elle avait eu lieu, ni ce qui était vrai, ce qui était faux. Et en fait, donc je ne sais pas, elle a dû y en parler dans les années 30, quoi. Et 20 ans après, on s'en souvenait encore. Parce qu'elle a vraiment donné lieu à pendant 8 mois, de très nombreux articles qui étaient donc directement consacrés à l'affaire. Mais il y a eu aussi plein d'autres articles annexes où on voit apparaître vraiment... des tensions autour de ce problème de la laïcité qui font donc du coup indirectement référence à cette affaire de Coufouleux.
Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain, Florian Boulet, Sophie Roumégousse, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.